Il est 16h en temps universel, vous écoutez bien RFI, 17h à Paris, 18h à Jérusalem.
Diane Berger.
L'émotion sur la place des otages de Tel Aviv. Le Hamas a libéré aujourd'hui 3 otages, dont le franco-israélien Ofer Calderon. On écoutera ensemble la réaction de l'ambassadeur de France en Israël. Nous irons ensuite dans ce journal au Kurdistan irakien, où des enseignants font une grève de la faim. Ils demandent le versement de leur salaire bloqué en raison de tensions entre les autorités kurdes et l'État central. Le Mexique, le Canada et la Chine se préparent au choc. Donald Trump a promis de faire entrer en vigueur aujourd'hui ces taxes douanières conséquentes concernant les produits importés de ces 3 pays. Et puis les tigres ont de quoi ronronner de plaisir. Le plan de sauvegarde de l'espèce mis en place en Inde est un succès. Ces félins, longtemps menacés, sont désormais de plus en plus nombreux. La fin de 484 jours de captivité à Gaza. 3 otages du Hamas ont été libérés ce matin. Parmi eux, le franco-israélien Ofer Calderon, apparemment en bonne santé. Il a rejoint sa famille en Israël, notamment ses enfants qui avaient été enlevés avec lui le 7 octobre 2023 et libérés lors de la première phase de trêve. Un autre franco-israélien, Oad Yahalomi, lui, est toujours en captivité. Nos envoyés spéciaux Muriel Paradon et Nicolas Benita ont rencontré sur la place des otages de Tel Aviv Frédéric Journès, l'ambassadeur de France en Israël. On l'écoute.
Bah écoutez, c'est un moment très très ému, un grand soulagement, parce qu'on se dit ça y est, Ofer va retrouver sa famille, tous ses enfants. Il y avait Sahar et Erez qui avaient été enlevés avec lui, et puis les autres enfants qu'il avait. Et voilà, c'est d'abord ce soulagement immense, cette grande joie. Hadass Calderon, sa femme, t'es une vraie lionne, elle s'est battue, elle a remué ciel et terre, voyagé partout. Les familles israéliennes ont été extraordinaires, vous savez, dans toute cette affaire. Et donc, voilà, c'est ce moment de proximité avec la joie du peuple israélien, et puis de fierté, parce que je trouve que la France aussi a remué ciel et terre, qu'on a utilisé tous les leviers qu'on pouvait avoir pour obtenir ces libérations. Alors maintenant, je pense très fort à la famille Yahalomi, on est avec eux. Le président l'a redit ce matin sur X. On continue à tout mettre en œuvre pour obtenir la libération d'Orad et puis celle de tous les otages.
L'ambassadeur de France en Israël, Frédéric Journès. Pour obtenir leur libération aujourd'hui, l'État hébreu a échangé ses otages contre 183 prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Autre conséquence de la trêve entre Israël et le Hamas qui entre dans sa 3e semaine, le point de passage de Rafah a pu rouvrir ce matin à la frontière entre Gaza et l'Égypte. L'évacuation de 50 Palestiniens gravement malades a pu commencer. Des grilles qui restent closes. Les écoles du Kurdistan irakien sont fermées depuis 1 semaine. Les professeurs ont décrété la mobilisation générale pour réclamer le paiement de leur salaire bloqué à cause de querelles financières entre le gouvernement régional kurde et l'État central irakien. Notre correspondant Luc Alazo s'est rendu à Slemani où des enseignants ont même entamé une grève de la faim.
10 professeurs ont installé leur lit de camp sous les fenêtres des Nations Unies à Slemani, 2e ville du Kurdistan. Pas question de les en déloger avant que leur salaire de décembre et janvier ne soit versé. Affaibli et perfusé, cet enseignant de biologie dénonce une situation qui dure depuis trop longtemps.
Je n'ai pas mangé depuis 4 jours. Ma pression artérielle est en train de chuter. Depuis 2014, je ne peux pas me souvenir d'une seule année où nous avons reçu l'intégralité de nos salaires. Parfois, ils nous paient seulement le quart de notre salaire mensuel.
De plus en plus d'enseignants sont contraints de trouver un second travail. Pour s'en sortir, Fazel, prof d'art plastique, souligne la responsabilité des autorités kurdes.
Notre grève de la faim est dirigée contre un gouvernement sourd et aveugle. Nous avons protesté par tous les moyens traditionnels, sans réaction. Nous avons même sollicité la Cour fédérale irakienne, qui a jugé que ce devait être à Bagdad de distribuer nos salaires, mais le gouvernement du Kurdistan ne respecte pas cette décision.
Ces retards de salaire sont la conséquence du bras de fer financier qui oppose le gouvernement régional kurde et l'État central irakien autour de la répartition des revenus du pétrole du Kurdistan. Si les écoles sont fermées depuis dimanche, pour ce professeur, cette protestation est une bonne leçon.
Je veux rappeler aux enfants qu'ils apprennent aussi à lire et à écrire pour apprendre à défendre leurs droits. Nous resterons ici jusqu'à la mort ou jusqu'à ce que nos droits soient respectés.
Cette grève de la faim des professeurs est hautement symbolique puisque la dernière remonte aux années 90 et à la lutte pour l'autonomie du Kurdistan en Irak. Luc Elazo, Sleimani, RFI.
54 morts dans un bombardement sur un marché au Soudan. Il a eu lieu à Omdurman, près de Khartoum, une attaque attribuée aux paramilitaires des forces de soutien rapide en guerre contre le général Abdel Fattah al-Burhan depuis avril 2023. Les affrontements ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts depuis le début du conflit. Le président du Burundi est inquiet quant à la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Évariste Ndayishimiye appelle la communauté internationale à prendre la situation au sérieux. Il estime que la guerre entre l'armée de Kinshasa et le M23 pourrait, je cite, « se généraliser dans toute la région ».
RFI, Radio France Internationale.
Vous écoutez toujours RFI, il est 11h et quasiment 6 minutes à Washington, aux États-Unis. Donald Trump l'a assuré hier, la Chine, le Canada et le Mexique ne peuvent rien faire pour empêcher l'entrée en vigueur des droits de douane prévus à partir d'aujourd'hui. Une taxe de 25% sur les importations aux États-Unis depuis le Canada et le Mexique, 10% pour les produits venus de Chine. Et le président américain prévient, l'Union européenne pourrait bientôt être concernée. Un autre dossier sur la table du président américain, les relations avec les différents pays d'Amérique du Sud, avec notamment cette mission réussie pour Richard Grenell, l'émissaire américain envoyé au Venezuela. Il est reparti hier soir du pays avec 6 ressortissants américains tout juste libérés de prison. Les relations étaient tendues depuis des années entre les deux pays. Les États-Unis ne reconnaissent en effet pas Nicolas Maduro comme président légitime du Venezuela, mais après l'avoir rencontré, Richard Grenell a appelé à un nouveau départ entre Caracas et Washington. Oriane Verdier.
Au sortir de cette rencontre, Nicolas Maduro a utilisé le même vocabulaire lors d'une allocution télévisée. Selon le président vénézuélien, il s'agit d'un nouveau départ historique entre les deux pays.
Nous sommes parvenus à des accords initiaux sur certaines questions. Au fur et à mesure de leur mise en œuvre, de nouveaux sujets surgiront avec l'espoir de conclure de nouveaux accords pour le bien des deux pays et de l'ensemble de la région. Nous veillerons à ce que ce qui a été discuté soit strictement respecté.
Outre la libération de ces 6 Américains, très peu de détails concrets sont sortis de cette rencontre. La Maison-Blanche précise qu'elle ne représente cependant pas une reconnaissance de la présidence de Nicolas Maduro. Richard Grenell avait des objectifs précis, notamment celui d'obtenir que Caracas accepte le retour inconditionnel des Vénézuéliens expulsés des États-Unis. Donald Trump a annoncé le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine. 600 000 Vénézuéliens aux États-Unis sont concernés par l'annulation de la prolongation de leur statut de protection temporaire.
Justement, nous venons de l'apprendre, Donald Trump annonce sur le réseau social Truth que le Venezuela a accepté de reprendre tous ses ressortissants expulsés des États-Unis, y compris les membres des gangs. Les dernières frappes russes en Ukraine ont été intenses. Selon Kiev, la nuit dernière, Moscou a lancé 42 missiles, 123 drones. Un assaut conséquent, le bilan est d'au moins 11 morts. Les étudiants commencent à bloquer des ponts à Novi Sad, la deuxième ville de Serbie. Nouvelle étape de leur mobilisation, quasiment quotidienne, contre le pouvoir. Cela depuis l'effondrement, il y a 3 mois, du toit d'une gare de la ville qui avait fait 15 morts. Enfin, une bonne nouvelle pour une espèce longtemps menacée d'extinction. L'Inde a atteint ses objectifs de conservation des tigres, d'après une étude parue dans Science, la revue scientifique, le 30 janvier dernier. Victimes pendant des années du braconnage et de la destruction de leur habitat, ces félins sont désormais de plus en plus nombreux dans le pays. Igor Strauss, c'est grâce au plan de sauvegarde de l'Inde, les animaux ont pu étendre leur territoire de 30% entre 2006 et 2018.
Autrefois répandus dans toute l'Asie, les tigres ont été éliminés de plus de 90% de leur aire de répartition historique. Le succès du plan de conservation indien est donc une bouffée d'oxygène pour les tigres et pour la santé des écosystèmes. Ils sont désormais 3600 en Inde, répartis sur 138 000 km², et près de la moitié de ce territoire est également habité par des humains. Or, cette cohabitation homme-animal explique la réussite du programme, selon les auteurs de l'étude. L'approche indienne a consisté à préserver certaines terre pour les tigres, tout en les laissant cohabiter avec les humains sur d'autres. Mais cette cohabitation entre les populations et les tigres a généralement lieu dans les zones prospères, précise le rapport. La colonisation des tigres est bien plus faible dans les régions pauvres où les communautés vivent de viande de brousse. Les auteurs de l'étude précisent également que le retour des félins est essentiel pour la protection de la biodiversité, que sa présence témoigne du bon état de tout un écosystème et qu'elle favorise en bout de chaîne la séquestration du carbone qui est bénéfique pour le climat mondial.
Igor Strauss du service environnement de RFI. Il est maintenant 16h10 en temps universel, l'heure de retrouver Hugo Moissonnier pour Mondial Sport.